Voilà, donc nous sommes toujours sur notre série concernant les abus des faux serviteurs. Et les témoignages sont importants parce que les témoignages, ça nous renvoie à nous-mêmes. C'est pratique, c'est concret, c'est du concret. On peut donner toutes sortes de théories, mais quand on rencontre des gens qui ont vécu ces choses, c'est du réel, c'est du concret. Et donc, je ne sais pas s'il y a des questions à partir des témoignages que nous venons d'écouter. Oui, Christian.
Je voulais revenir sur la question qu'on a posée à la sœur Jeannette quand elle a dit que le serviteur vivait de l'argent qu'on lui donnait. Un serviteur qui est à temps plein, qui ne fait que ce travail, est-ce que ne doit-il pas vivre de ce, puisque la Bible dans Galates dit que nous sémons ce que nous récoltons et que celui à qui on a enseigné la parole doit bénir le serviteur de ses biens. Ma question est, c'est à quel moment qu'on peut dire que c'est l'abus? Est-ce que du fait que le serviteur a acheté la voiture ou bien une maison, est-ce à quel moment qu'on peut dire que la personne abuse?
Peut-être que Ginette elle-même veut faire une précision. Si elle me laisse répondre, donc je vais répondre. Tu me laisses répondre, voilà. Oui, je crois que l'idée qui était derrière le fait de dire que la personne prenait l'argent qu'on donnait, c'est dans le sens où, sans contrôle des tiers, la personne usait de cet argent comme elle voulait, je crois. Cependant, que le serviteur vive de ce qui est enseigné, ce n'est pas... De ce qu'on lui donne, de ce qui est donné par rapport au travail de Dieu, ce n'est pas mauvais, mais c'est peut-être lié au fait que la personne usait de cela comme elle entendait. Oui, pasteur.
Oui, c'était pour ajouter un détail dans la question. Elle a suivi des propos de la connaissance des données, à savoir que c'était une entreprise. Donc des choses étaient faites avec calcul pour que ça soit rentable, pour qu'il y ait du profit et pour qu'il y ait des bénéfices.
Donc, non,
en plus. L'enrichissement était lié au fait que c'était une entreprise, mais ce n'était pas le fruit, je dirais, simplement d'être serviteur à plein temps que les gens le bénissaient. Non, c'était quelque chose qui était organisé et réfléchi pour pouvoir en vivre.
Ah, d'accord. Ok. Donc, si c'est organisé dans ce sens-là, ce n'est pas bon. Même si la Bible dit que nous vivons du travail que nous faisons, mais ça doit être un cadeau de Dieu. Dieu touche les cœurs et les gens donnent. Mais si c'est un calcul lié à l'obtention de bénéfices pour s'enrichir ou pour vivre, c'est pas bon. Donc on doit servir Dieu et si Dieu touche les cœurs, les gens nous bénissent et nous en vivons. Voilà.
Moi, je vais faire une intervention par rapport à la question là, parce que quand on voit dans le reportage le serviteur qui a fait un appel de fonds, on peut imaginer que dans cet appel, enfin, dans cette réunion, il y a des gens qui sont peut-être pauvres, qui ont peut-être de faibles moyens. Et je crois qu'en fait, la règle générale, c'est que le serviteur, il ne doit pas oublier que c'est l'amour qui doit le guider. Donc même si les gens vont le bénir financièrement pour qu'il puisse vivre comme Paul vivait, ou peut-être pas Paul puisqu'il travaillait, mais d'autres ont peut-être vécu en étant, en étant en quelque sorte soutenu par les personnes de l'Assemblée, je crois que le serviteur, il ne doit pas non plus s'asseoir là-dedans et puis profiter des gens, parce qu'il ne faut pas oublier que dans les assemblées, essayer de profiter des gens pour des bénédictions et tout, ça va complètement à l'encontre de la parole de Dieu et voilà quoi.
Oui, mais moi je pense que oui, on ne peut pas mélanger la question avec le monsieur qui tout à l'heure il demandait de que les gens donnent 100 $. Ça, c'est vraiment de l'escroquerie très visible. Hein. La question, c'est juste est-ce que la personne, est-ce que vivre de ce qui nous est donné, c'est mauvais? Mais c'est que c'est ça la question. C'est ça, non, la question. Mais parce que ce que ce monsieur-là a fait tout à l'heure, c'était vraiment du vol, carrément. Mais tout ça est fait avec concentration, les yeux fermés, il prie même. Donc c'est ça qui paraît extraordinaire, quoi. Donc la question de Christian, c'était par rapport à ce que Ginette avait dit. Le monsieur, il vivait de ce qu'on lui donnait. Voilà.
Oui, mais justement, c'est là où il faut... Parce que Christian, il a quand même rajouté le fait que où est la frontière. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette intervention, parce que c'est vrai que entre le serviteur, il peut très bien dire, ben moi, la Bible dit que vous devez subvenir à mes besoins. Donc,
même là, moi, je ne suis pas d'accord. Donc qu'un serviteur dise aux gens... Vous devez subvenir à mes besoins. Non, il doit dire à Dieu que c'est toi de me subvenir à mes besoins. Maintenant, en enseignant aux gens la Bible, donc on peut arriver à un enseignement où on explique que c'est aux gens qui sont enseignés de subvenir aux besoins de celui qui l'enseigne. Mais ce n'est pas une déclaration pour nous-mêmes en tant que personne, mais par rapport à la vérité. Donc lorsqu'on donne l'enseignement, il n'y a pas de problème, mais dire aux gens directement que vous devez subvenir à mes besoins, c'est la Bible qui le dit. Voilà, là, hors enseignement, ce n'est pas bon. Je crois qu'on doit on doit enseigner ça, mais pas réclamer, revendiquer ça. Voilà. Sauf en cas de polémique sur la parole de Dieu. Oui.
D'établir une taxation comme si on était dans une clinique, de faire des appels de fonds systématiques, et c'est ça qui est mauvais, c'est-à-dire se mettre à la place du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit doit toucher les gens, il va les toucher. Et on n'a pas besoin de... Enfin, je pense qu'on n'a pas besoin de se mettre à sa place. C'est lui qui pourvoit pour ses serviteurs. Maintenant, je me souviens d'avoir reçu un pasteur à la maison qui avait organisé systématiquement. Il disait les dîmes, c'est pour ça, les offrandes, c'est pour ça. Et donc, il vivait que de ça. Mais il faisait des appels de fonds. Et je me souviens de lui avoir posé une question parce qu'il avait assuré tous ses enfants sur tous les plans, etc. Je lui dis, mais et l'assurance de Dieu, où est-elle? Donc, c'est un peu. La réponse du berger à la bergère, si on fait un appel de fonds, on est en contradiction maintenant. Si on survient au besoin d'un serviteur de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui s'en occupe, c'est son affaire. C'est pas l'affaire des autres.
Non, un appel de fonds pour soi-même, c'est là qu'on est en contradiction. Mais un appel de fonds pour autre chose, donc on le voit dans la Bible, Paul a fait un appel de fonds pour aider l'Église de Jérusalem. Voilà, donc c'est lorsqu'on commence à réclamer pour soi-même des choses sous prétexte que nous servons Dieu, réclamer ça aux gens, ce n'est pas bon. Donc là, le monsieur de tout à l'heure, là c'est un autre cas. Moi je pense que ce n'est même pas, ça c'est carrément de l'escroquerie, du vol et de la méchanceté. Donc c'est comme dire aux gens, celui qui payera le plus, c'est celui-là qui sera le mieux soigné, quoi. Donc ce n'est pas bon. Mais pourtant, on a vu des gens crier Amen pendant qu'ils parlaient. Donc les gens ont crié Amen, ils étaient contents. Comme quoi, c'est les gens eux-mêmes qui tendent le flanc pour qu'on les perce. Et c'est ça aussi la réalité. C'est vrai qu'il y a des escrocs. Mais les escrocs, c'est dans les deux côtés. C'est du côté des gens qui parlent, qui prêchent, et c'est aussi du côté du public qui appuie de telles choses. Oui.
Justement, à ce propos, j'ai observé le visage des femmes qui étaient devant quand ils faisaient cet appel. Elles avaient l'air complètement prisonnières, aveugles, aucune joie, aucune expression, rien, il n'y avait rien. Elles étaient mortes là-devant. Et pourtant, elles se sont levées pour aller... je revois encore ces images, il ne se passait rien. pendant cet appel de fonds, avec tous les billets, on sent qu'elles étaient complètement dépassées.
Oui, mais bon, mais elles sont parties quand même données. Je crois que c'est la peur de louper la bénédiction. Voilà. Et maintenant, c'est, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est pourquoi nous sommes obligés pour ce genre peut-être de personnes qui, au début, il y a quand même un souci de dire « mais je n'ai pas beaucoup d'argent, on me demande beaucoup d'argent, mais je donne quand même parce que je ne veux pas louper la bénédiction ». Pour ces personnes-là, nous voulons parler et dénoncer ces mauvaises choses. Parce que dans tout ce qu'on fait là, il peut se poser la question de est-ce que c'est bien de dénoncer les faux serviteurs ? Il y en a qui... On a vu sur Internet, hein, dans les commentaires, certaines personnes disent oui, on doit prier pour eux, on ne doit pas les dénoncer, on doit comprendre, c'est des frères, c'est des... on doit prier pour eux. Et nous voulons, donc, tant qu'il n'y a pas de questions autres, donner des passages, oui, qui montrent que bon, le Seigneur lui-même a dénoncé et il nous appelle aussi à dénoncer. Voilà. Oui, et dans l'intervention de Ginette aussi, elle ajoute que c'est pas ce que son cœur voulait vraiment aussi. Donc, pour de telles personnes, nous sommes obligés de dire la vérité. Nous sommes obligés de dire la vérité parce qu'il y a des gens qui sentent bien dans leur cœur que ce n'est pas ça. Mais comme c'est la norme, ben, ils cèdent. Ils disent, mais tout le monde fait comme ça. Donc, ça doit être certainement comme ça que ça doit se faire. Donc, pour de telles personnes, nous devons parler. Oui.
D'ailleurs, cet homme-là qu'on a vu faire l'appel de fond, ça, c'est, ça datait ou c'est, enfin, il continue, lui, son, à prêcher, tout ça, là ou...
Certainement, puisque cette église-là continue à exister.
Parce que c'est vrai qu'on se dit quand même, bon... Les gens qui peut-être ne savent pas, bon, c'est vrai que on est aussi passé par là. Un moment, bon, tu te dis, oui, on fait ça pour le Seigneur, mais après, c'est vrai que les gens qui sont encore avec de tel serviteur, tout ça, même si on leur dit, mais il fait ça, c'est pas biblique, d'autres parfois voudront quand même rester. Encore là-bas, quoi. Et c'est ça qui est aussi bizarre. Enfin, moi, je me dis, enfin, c'est bizarre, quand même, parce que on dirait que il y avait eu une histoire là-bas dans le 94 où un serviteur de Dieu avait fait vraiment des dégâts et tout ça dans les couples et tout. Et il y a des gens qui, après plusieurs années, l'ont retrouvé et sont repartis encore prier avec lui pour bon, puis enfin, moi je n'arrive pas à comprendre ça, quoi. Je me dis, si tu sors d'une assemblée où vraiment toi-même tu as vu et t'as vécu ça, normalement tu ne dois pas encore rechercher même à repartir ou bien à te dire « bon, c'est vrai, c'est un homme et tout ça, bon, que Dieu aussi le pardonne ». Enfin, je ne comprends pas ça, quoi.
Oui, mais bon, comme je connais la situation dont tu parles, beaucoup ne sont pas sortis d'eux-mêmes. Ils sont sortis parce que le monsieur a été dévoilé. Étant dévoilé, la chose a été rendue publique. Il y avait même parfois des poursuites judiciaires. Et donc l'Église s'est cassée et chacun a pris sa route. Ce n'est pas comme si eux-mêmes, ils ont décidé de quitter l'Église. Et donc ces gens-là qui ont quitté par la force des choses, en fait, c'est l'Église qui n'existait plus, ils se sont retrouvés à la rue, ces gens-là n'étaient pas forcément libérés. Et donc ils étaient encore attachés au monsieur, c'était de l'idolâtrie par rapport à cet homme-là. C'est pourquoi dès qu'il a recommencé, ils sont partis le rejoindre, parce qu'ils n'étaient pas, ils n'avaient pas décidé d'eux-mêmes de quitter à cause de la vérité. Et c'est ce qu'on a souvent dit, il est écrit dans 2 Timothée 4 que les gens eux-mêmes se choisiront des faux docteurs. C'est-à-dire quand on voit des gens suivre de tels faux docteurs, c'est parce qu'ils ont, ils sont eux-mêmes corrompus. C'est comme ça qu'ils suivent les faux docteurs. Je ne dis pas tous, mais une bonne partie. Et d'ailleurs, je me souviens, comme je le dis souvent, c'est que pendant 5 ans ou 6 ans, je prêchais contre les faux serviteurs. Et un jour, le Seigneur m'a dit, il faut équilibrer les choses. Donc, il ne faut pas passer ton temps à prêcher contre les faux serviteurs. Parce qu'il faut des faux serviteurs pour les faux chrétiens. Voilà. Il faut des faux serviteurs pour les faux chrétiens. Et donc, comment on reconnaîtra aussi certains faux chrétiens par leur penchant à suivre les faux serviteurs. Donc, c'est cela aussi. Et la Bible dit dans 2 Timothée 4 qu'eux-mêmes, ils se choisiront de faux docteurs. Donc, c'est eux-mêmes qui élèvent ce genre de personnes. Après, il y a des gens qui ne savent pas trop et qui sont embarqués. Et c'est pour ces gens-là que nous parlons. C'est pour ces gens-là que nous continuons à prêcher la vérité parce que on se dit qu'eux, en entendant, ils vont se dire, mais tiens, voilà ce que mon cœur cherchait, voilà la vérité, je suis la vérité. Donc c'est pour ces gens-là, mais sinon, il y en a qui ont choisi le mensonge. Et comment on le saura? Par leur penchant à suivre ce qui est faux. Et nous allons lire quelques passages. Nous prenons par exemple Galates au chapitre 2, 11 à 14. Galates 2, 11 à 14. C'est écrit, « Mais lorsque Céphas, c'est Pierre, hein, lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart. Il se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser ?» Donc on a un exemple, l'exemple, je dirais un des exemples les plus durs, c'est que Paul reproche à celui qu'on considérait comme l'un des trois colonnes de l'Église, donc Jean, Pierre et Jacques, on les considérait comme les trois colonnes, eh bien, Paul ose le dénoncer devant d'autres personnes. Donc pourquoi? Parce que Pierre touchait à quelque chose de fondamental par rapport à la doctrine de Christ. C'était qu'il n'y avait plus de juifs, ni de grecs, ni d'hommes, ni de femmes. Tous, on était pareils devant Dieu. Et Pierre a nuit à cette doctrine en faisant l'hypocrite. Donc lorsque il était avec les Pauls au milieu des Galates, il mangeait avec les Galates, juif ou païen. Et quand les gens de Jérusalem sont venus, la clique de Jacques, Pierre n'a plus voulu approcher les chrétiens non juifs, donc les païens. Il n'a plus voulu les approcher. Et Paul a dit, alors là, c'est grave ce que tu fais, parce que ça détruit l'œuvre de Christ. C'est ainsi qu'il a dénoncé. Donc nous ne dénonçons pas à chaque fois que quelqu'un fait une erreur en public. Nous ne dénonçons pas en public à chaque fois que quelqu'un fait une erreur. On dénonce lorsque ces erreurs nuisent à la doctrine de Christ, nuisent à la parole de Dieu, clairement, parce que ça peut amener les gens à perdre leur salut ou à ne pas l'obtenir. Et dans Matthieu 24, 24, le Seigneur dit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Le Seigneur nous annonce cela. Dans 2 Pierre 2, au chapitre 1er, il est dit ceci, « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. » Voilà. Donc là, il y a encore un avertissement et concernant les faux prophètes. Il y en a beaucoup, beaucoup de conseils par rapport à ça. Il y a même Jean qui nous dit dans 1 Jean 4, 1 à 4, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceux-ci l'esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair, et de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Donc on nous demande de ne pas ajouter foi à tout esprit, mais d'éprouver les esprits. Donc ça fait partie du travail du chrétien d'éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Dans 3 Jean, du verset 9 à 11, c'est écrit, « J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je veux vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant compte d'un méchant propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le frère, il les en empêche et les chasse de l'Église. » Là, il y a encore un monsieur qui s'appelle Diotrephe qui est dénoncé. Et dans bien d'endroits, il y a dénonciation des faux serviteurs de Dieu. Nous devons le faire dans le but de dénoncer les fausses doctrines. L'objectif, ce n'est pas de citer des humains. Et nous prenons parfois des précautions avant de citer un homme. Mais parfois nous sommes conduits, comme là dans le cas de Diotrephe, lorsque la nuisance de la personne est avérée et est vraiment grave, les noms sont cités. Et ailleurs, il y a même Paul qui a livré Hyménée à Alexandre, à Satan, carrément, parce que leur nuisance devenait de plus en plus grave. Nous, prenons la précaution de ne pas citer, surtout lorsqu'on est, entre guillemets, en concurrence directe pour ne pas paraître être des jaloux par rapport à cette personne-là. Mais lorsque leur nuisance devient de plus en plus grave, nous sommes obligés parfois de citer les noms. Mais toujours est-il que Dieu veut que nous dénoncions les mauvaises œuvres. D'ailleurs, ça fait partie des qualités d'un ancien. Dans Tite, au chapitre 1, verset 9, on dit que l'ancien doit savoir réfuter les contradicteurs. Il doit savoir réfuter les contradicteurs. Donc, un des travaux de l'ancien, c'est de protéger le troupeau des gens qui amènent des fausses doctrines. Donc, c'est quelque chose qui a commencé depuis l'Ancien Testament, où dans Jérémie 23, Dieu dénonce les faux bergers. Dans Ézéchiel 34, Dieu dénonce les faux bergers. Michée dénonce les faux bergers. Dans le chapitre 3, versets 5 à 8, il dénonce les faux bergers. Donc, depuis la Genèse, les faux conducteurs sont dénoncés. Et même des bons, parfois, ils sont aussi dénoncés quand ils se comportent mal. Donc, on a vu David être réprimandé par Samuel. Et donc, ça, que nous dénoncions ces choses-là, ça doit être fait, oui, toujours dans l'objectif de construire l'œuvre de Dieu et non pas de viser un homme. Oui, oui.
Pasteur, je voulais revenir sur le passage d'1 Jean 4 qui dit « Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. » Or, on constate clairement qu'il y a beaucoup de gens qui prêchent, qui disent clairement que Jésus-Christ publiquement est, que Dieu est venu en chair, et pourtant ça reste quand même des faux serviteurs. Et là, la Bible nous dit que c'est l'Esprit de Dieu.
Oui, je crois que c'est une phrase dans laquelle il y a tout un contenu. Quand on dit que ceux qui reconnaissent publiquement Jésus-Christ venu en chair, ils sont de Dieu, parce qu'ils reconnaissent toute l'œuvre de Christ. C'est ça qui est dans ce contenu-là. Tous ceux qui reconnaissent toute l'œuvre de Christ, ils sont de Dieu. Effectivement, là, il est question d'esprit. Hein. Donc, l'esprit qui dit ça, que toute l'œuvre de Christ est vraie, cet esprit-là est de Dieu. Maintenant, quelqu'un peut dire toute la vérité sur Christ, mais lui, l'homme, il n'est pas de Dieu, mais ce qu'il dit là, c'est quelque chose qui est divin, que toute l'œuvre de Christ est réelle. À nous maintenant de nous attacher à ce qui est dit par cette bouche-là et non pas à cet homme-là dans ce comportement qui est mauvais. Donc ce qui est dit, c'est pourquoi même Paul dit... par rapport au fait que lui, il était en prison, les gens étaient à l'extérieur, ils prêchaient Christ. Il dit, mais il y en a qui prêchent Christ pour leur ventre. Il y en a qui ont leurs intérêts. Mais je me réjouis quand même du fait que Christ est prêché par ces gens-là. Donc, du moment que ce qu'ils disent est vraiment lié à la parole, ben c'est bien. Maintenant, leurs intentions sont mauvaises. Donc, c'est pour nous dire que ce langage-là de vérité que Jean dit, il faut approuver ça, ce langage-là de vérité, même si peut-être c'est les hommes, les humains qui le disent ne sont pas corrects. Mais que Jésus, l'œuvre de Christ, elle est véritable. Si quelqu'un le confesse, c'est l'Esprit de Dieu, en tout cas, qui s'impose sur cette personne-là pour dire que l'œuvre de Christ est véritable. Maintenant, bon, ça ne nous impose pas de suivre les gens, de suivre les humains. Mais nous sommes aussi dans un cas particulier où régnait une doctrine qu'on appelle arianisme, montée par un certain Arius. Cet Arius-là prétendait donc ou si vous avez déjà entendu parler de la gnose, voilà, la doctrine gnostique. Ça prétend que, entre autres, que Jésus n'était pas humain, c'était un esprit supérieur. Voilà. Et cette doctrine faisait fureur à l'époque. Et ça, c'est dans ce contexte particulier que Jean donne cet avertissement-là. Ceux qui veulent nier que Jésus-Christ est venu en chair, puisque que Jésus-Christ soit venu en chair, c'est l'œuvre de Christ, parce que Jésus est venu pour être l'agneau qui soit sacrifié. Donc si on nie qu'il est venu en chair, on nie toute son œuvre. Donc c'est la même chose. C'est la même chose. Et donc c'est dans ce cadre particulier de la doctrine de l'arianisme que Jean intervient pour dire aux gens, attention, tous ceux qui vous racontent là que Jésus-Christ n'était qu'un esprit, ben, ils ne reconnaissent pas Jésus venu en chair, c'est l'antéchrist. Voilà, donc, mais par extension, pour nous, on peut dire que quelqu'un qui ne reconnaît pas Jésus-Christ venu en chair, il ne reconnaît pas toute l'œuvre de Christ, qui est l'œuvre principale étant d'être l'agneau sacrifié, quoi. Oui.
Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre réfuter un contradicteur, il est là, on réfute ce qu'il dit, et dire que quelqu'un, est, par exemple, qui n'est pas là pour se défendre, est un faux prophète ou il est mauvais pour ceci et pour cela? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre ces deux choses-là? C'est-à-dire, on parle de quelqu'un, mais on ne dit pas à ce quelqu'un ce qu'il est. On le dit aux autres, il est comme ça. Et bon, il me semble qu'il y a un problème de porter la contradiction, d'aller au front, parce qu'en fait, on dit que celui-là est mauvais, mais il n'est pas là. On ne le dit pas à lui, on le dit aux autres.
Oui.
Il n'y a pas un problème là, j'arrive pas à discerner cette chose.
Non, moi je pense que le problème c'est les intentions. Si c'est, les... c'est pourquoi j'ai dit que souvent on évite de le dire à des gens, sur des gens avec qui on serait dans une sorte de concurrence directe, parce que ça peut paraître être de la jalousie et qu'on critique parce qu'on voit que les gens suivent cet homme-là, quittent l'église, ainsi de suite. Voilà, donc on évite de citer les noms, mais on dénonce ce qu'ils font. Voilà. Mais cependant, quand ce qui est fait commence à nuire gravement, donc on ne peut pas cacher les choses. On doit dire les choses. Maintenant, si on a la possibilité de discuter visiblement avec la personne, on discute. Moi, je pense qu'on n'aura pas toujours cette possibilité-là de discuter visiblement avec les gens. Donc, c'est que quand Paul a livré Hyménée Alexandre à Satan, je ne pense pas que c'était en face, hein. Donc il a déclaré une parole par rapport à eux. Je crois que si on peut parler face à face, on parle. Mais si on ne peut pas parler face à face, on doit quand même prévenir les gens dont on s'occupe. Oui.
Moi j'ai une question par rapport, c'est l'exemple par exemple de Ginette qui disait que, bon c'est parce que là c'est sur les faux serviteurs, mais bon la personne avait quand même 95% de vérité. Et 5% d'erreurs par rapport à l'évangile de prospérité. Et tout de suite, on dit que c'est un faux serviteur, mais c'est vrai que de nos jours, on est assez allergique, les chrétiens, par rapport à la prospérité. Mais si ce serait un autre péché, si je pourrais dire que les chrétiens sont moins vigilants, par exemple, que le pasteur il a 5% de gourmandise. Je prends des exemples bêtes, mais c'est des péchés quand même dénoncés dans la Bible. Est-ce qu'on pourrait aussi le décrire de faux serviteur?
Non, nous, là, justement, on a dit que nous, on dénonce, c'est pas qu'on dénonce les erreurs des humains, on dénonce leur égarement par rapport à la doctrine. Donc, quelqu'un peut faire des erreurs, nous tous, on peut faire des erreurs. Mais ce qui est dénoncé, c'est le fait d'utiliser la parole de Dieu dans un but humain, soit de s'enrichir ou autre chose. C'est l'égarement qui détruit vraiment les autres. Si le pasteur qui est gourmand commence à prêcher sur la nourriture, on dénoncera aussi. Mais si c'est juste son problème personnel, on priera pour sa délivrance. Voilà. Donc ce qui est dénoncé, c'est quand on touche à la parole, quand on touche à l'œuvre de Christ, quand on touche à ces deux choses-là,
Là, il faut dénoncer parce que ça fait perdre les gens, ça amène les gens à croire à un autre Christ, en quelque sorte, au Christ qui va leur donner le mariage, qui va leur donner l'argent, qui va leur donner l'enfant qu'ils attendent. Donc, ils changent l'évangile, en quelque sorte, et c'est là que nous voyons la réaction. Je crois que ce thème, nous l'avons déjà traité, mais bon, j'en profite de reparler puisque on est en train de suivre des vidéos. Et
justement, comme les vidéos sont toutes tournées vers l'argent, c'est pour ça que je voulais amener la précision que ce n'est pas obligatoirement l'argent qui conduit à l'erreur. C'est le fonctionnement, en fait, l'état de cœur.
Oui, mais c'est quand même la racine. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. En général, ça tourne autour de ça. En général, ça tourne autour de ça. Quand on voit les cardinaux à la télé, là, on peut dire, ben, tiens, c'est quand même l'argent parce que ces robes-là, on voit la qualité, ce n'est pas n'importe quoi. On voit, c'est quand même des princes, quoi. Il y a le pouvoir, mais il y a toute la richesse, il y a l'argent. Ça tourne autour de ça. Même quand ça ne paraît pas, il y a quand même un pouvoir et tout pouvoir marche un peu avec l'argent. Ça tourne autour de ça. Et c'est vrai que certains peuvent avoir des erreurs du genre faire de leur église ou de leur règlement intérieur ou de leur mouvement une sorte de divinité. Et ça aussi, c'est à dénoncer. C'est à dénoncer. Mais l'argent reste quand même le principal moteur. Oui ?
Oui, et puis est-ce que dans 1 Jean 4 et dans ce que l'on dit aussi, on en parle aussi, c'est par rapport à leurs œuvres aussi, quoi. C'est, bah oui, par rapport à ce qu'ils confessent, par rapport à, mais c'est vraiment aussi par rapport à leurs œuvres, aux œuvres qu'ils portent, l'œuvre, par exemple, enfin, à leur œuvre, aux fruits, quoi, je veux dire, aux fruits qu'ils portent par rapport à le mensonge, la prospérité, là, l'argent et tout ça, c'est vraiment les fruits aussi. Et c'est aussi parce qu'on en voit les fruits, même si la personne peut dire publiquement que oui, Jésus-Christ est venu en chair et tout ça, mais après, c'est le fruit aussi qu'elle portera, quoi.
Oui, donc, bon, voilà, c'est pourquoi moi je dis que quand il dit que quelqu'un qui ne confesse pas Jésus venu en chair, moi je crois que Jean veut insister sur l'œuvre de Christ totale. C'est-à-dire que si tu ne crois pas que le Fils de Dieu est venu en chair, et il a vécu ce qu'il a vécu, donc en chair, parce que... La doctrine d'arianisme voulait montrer un Christ Superman. Donc, ça annulait tout ce qui est humiliation, souffrance. Donc, Christ n'aurait jamais senti ces choses-là. Donc, il était un Superman, un esprit supérieur. Or, tout ça tue l'œuvre de Christ. Donc, comment maintenant un serviteur va accepter de souffrir, puisque Christ lui-même n'a pas souffert? Comment quelqu'un peut accepter de manquer de l'argent, puisque Christ, lui, il était Superman, il avait tout? Donc, c'est ça, quoi. C'est pas juste venu en chair, c'est-à-dire physiquement. C'est toute l'œuvre de Christ, quoi. Jean dit, si vous n'acceptez pas ce processus-là qui a eu lieu, le prince de l'univers est devenu un homme simple, alors... Vous êtes de l'antichrist, vous êtes contre l'œuvre de Dieu. Donc ces gens-là, c'est vrai qu'on nous a eu avec cette logique-là un certain nombre d'années, quand on était dans la région parisienne, on nous disait, il y avait un témoignage qui circulait sur Internet et de bouche à oreille, selon lequel, lors d'une réunion dans le monde satanique, il y a un sorcier qui aurait par erreur citer le nom de Jésus, et tout le monde s'est agenouillé, et puis ils l'ont réprimandé, et ils l'ont donné l'ordre de ne plus citer le nom de Jésus dans leur réunion. Et à partir de là, circulait une théorie selon laquelle un faux serviteur ne pourra pas citer le nom de Jésus. Et ça aussi, ça a contribué à nous maintenir sous le joug de certains faux serviteurs parce qu'on se disait, mais il cite le nom de Jésus, donc il est de Dieu. Or, c'était une erreur, puisqu'il y a des gens aujourd'hui en Espagne qui s'appellent Jésus. Et dans certains pays, il y a des Jésus. Donc il y a même dans la Bible même il y a un monsieur aussi qui s'appelait Bar Jésus, mais c'était un magicien. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un cite le nom de Jésus que c'est notre Jésus à nous. Voilà, donc ça peut être notre Jésus. Et ce n'est pas non plus parce qu'il cite le nom de Jésus que forcément il est vrai. Donc il n'y a aucun verset qui le dit. Mais c'était ce témoignage-là qui a circulé sur Internet et dans les églises qui nous faisait croire que bon, dès qu'un serviteur cite le nom de Jésus, c'est bon, on peut être tranquille. Il est quand même de Dieu, même s'il fait des petites erreurs, même s'il fait des erreurs. Non. Donc c'est quand Jean parle de ça, il veut parler vraiment de reconnaître toute l'œuvre de Christ venu en chair, souffert comme tout le monde, vécu comme tout le monde. Il parle de ce Christ-là, quoi. Et si quelqu'un ne reconnaît pas ça, c'est l'esprit de l'Antichrist. Et donc nous sommes obligés. Vous savez, il y a un verset qui dit que Dieu a laissé les gens le chercher à tâtons. Voilà. Et il y a des gens qui sont encore à la recherche de Dieu à tâtons. Et on est obligé de dénoncer ce qui est faux pour que ça les éclaire, pour qu'ils n'aillent pas sur la mauvaise voie. Et on peut en arriver à citer des noms lorsque leur nuisance devient grave. Moi, c'est comme si, bon, on sait bien que telle eau est empoisonnée, mais on ne cite pas le nom. On dit seulement à quelqu'un, fais attention à l'eau qui est de telle couleur, de telle... Non, mais soyons directs, on sait bien que s'il boit cette eau-là, ça peut le tuer. Donc autant dire le nom de la bouteille une fois pour toutes, quoi. Comme ça, la personne s'éloigner de ça. Donc quand les nuisances deviennent graves, on a quand même l'obligation de citer les noms. Mais lorsque les nuisances ne sont pas encore graves, on se dit que la personne peut aussi changer, la personne peut se repentir, on évite de citer les noms, on dénonce ce qui est fait. Mais quand les nuisances deviennent graves, nous sommes amenés à donner la chose une fois pour toutes aux gens, qu'ils fassent attention. Nous sommes dans un temps difficile et les gens n'ont pas toujours la capacité de chercher par eux-mêmes. Donc il faut aussi qu'on leur présente la nourriture telle qu'elle est, toute faite pour qu'ils prennent ce qui est bon une fois pour toutes. Et cela passe aussi par la dénonciation des faux serviteurs. Et surtout, quand on a, nous parfois on a eu des possibilités d'en parler dans des télévisions, ben, dans ces télévisions-là, les gens avaient le droit de nous appeler et de contredire. Voilà, donc quand on a ces possibilités-là, ceux qui sont pour la fausse doctrine, mais qu'ils appellent et qu'ils disent, qu'ils se défendent par rapport à la parole. Mais en tant que berger, nous avons aussi l'obligation de protéger le troupeau que Dieu nous confie et de leur éviter les dangers. Mais d'une manière globale, dans le corps du Christ, nous serons amenés à dénoncer les mauvaises choses, dénoncer les faux ouvriers et, dans la mesure du possible, parler à eux-mêmes directement aussi. Voilà, donc si Dieu nous en donne la possibilité. Oui.
On voit Jésus lui-même qui dénonce les pharisiens et qui leur dit même « Vous avez pour père Satan ». Donc lui-même, en face, il leur a dit clairement ce qu'ils étaient pour que les gens, justement, sachent à qui ils avaient affaire.
Oui, et bon, et puis à un autre endroit, il ne leur dit pas en face, mais il dit aux autres. Dans Matthieu 23, il parle aux autres en les prévenant concernant les pharisiens. « Faites attention aux pharisiens ». Voilà. Il les prévient quand même même quand ils ne sont pas là, il a prévenu le peuple pour dire, attention, les pharisiens, il ne faut pas les suivre, parce qu'ils font ceci, ils font cela. Quand on a la possibilité qu'ils soient en face, on peut, mais on ne doit pas laisser les gens dans l'erreur sous prétexte que les mauvais ne sont pas là pour qu'ils puissent
contredire.
Est-ce que ce n'est pas selon la conduite de l'esprit, je pense bien. Si l'esprit nous dit de le dire en face, on le dit. Parce que dans Jean 8, 26, Jésus dit, je vois, il dit aux pharisiens, je sais ce qui est en vous, je peux même juger. Je peux lire le verset. Il dit, j'ai beaucoup de... Jean 8, 26. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Donc, il pouvait bien juger, il a dit que je peux même juger, mais je pense bien qu'en ce moment-là, l'Esprit peut-être ne nous disait pas de dénoncer. C'est pourquoi je dis, si on dénonce en face, est-ce que ça ne doit pas être selon la conduite de l'Esprit?
Oui, moi je le pense. Hein. Donc, tout, en tant que chrétien, tout doit être fait sous la conduite de l'Esprit. Quand nous parlons comme ça, on suppose que chacun va dire que c'est l'Esprit qui l'a conduit. Voilà, donc c'est, tout doit être fait sous la conduite de l'Esprit. Même ce qui est de dénoncer, ça doit être fait sous la conduite de l'Esprit. L'Esprit va nous amener en grande partie à édifier, à présenter Jésus, à sauver les âmes, à les lier à Jésus. Mais il y a un pourcentage... Hein, non négligeable, dans lequel nous allons quand même montrer aux gens le mauvais chemin, c'est ça, il faut pas le prendre. Voilà, c'est important, parce que bon, les gens vont penser que puisque quelqu'un parle de Jésus, forcément c'est bien. Voilà. Parfois, il y a même des prédicateurs qui ne parlent pas directement d'argent comme ça, mais qui sont quand même des prédicateurs de prospérité, qui sont très dangereux et qui ne parlent jamais du péché. Mais ils ne parlent pas d'argent, mais ils ne parlent non plus du péché. Ils ne font qu'encourager les gens. C'est devenu des coachs spirituels. Donc, il y a des erreurs qui ne sont pas discernables par tout le monde. Donc, ceux qui discernent ça sont obligés aussi de prévenir, de sorte que le jour où on aura un éclairage en plus, on se rappelle de... Moi, je me souviens quand je lisais autrefois, quand ce site-là existait, le site Parole de Vie, qui était spécialisé côté dénonciation, voilà, j'étais d'accord parfois à 60% des serviteurs dénoncés. Mais, avec les années, j'ai été d'accord à 100%. Mais, les 20% qui faisaient que je n'étais pas d'accord, ça m'a aidé au moment où Dieu m'a éclairé encore autrement à me souvenir que Parole de Vie dénonçait déjà ça. Voilà. Donc, quand tu lis, tu dis, bon, je suis d'accord que, bon, Bénin, c'est vrai, c'est un faux. Un tel, c'est un faux. Ah, mais un tel autre, non, quand même. Mais eux, ils ne dénoncent pas gratuitement. Ils donnent des arguments bibliques. Ils donnent des arguments bibliques. Mais malgré les arguments bibliques, on a parfois des liens avec ces gens-là. On a parfois des émotions qu'on a connues. On se dit quand même s'il était faux. Pourquoi le jour où j'ai lu son livre, j'ai senti comme la puissance du Saint-Esprit me saisir. Alors, on doute. Et puis, un jour, un éclairage plus fort vient. Tout ce qu'on avait lu avant revient pour soutenir. Voilà, c'est bien quand même de dénoncer, même si les gens refusent, un jour Dieu leur donnera un éclairage en plus. Au début, moi, j'étais content pour ce site, de ce site-là, mais je me disais quand même, ils exagèrent. Hein. Catherine Kuhlmann n'est pas fausse quand même. Je comprends que Bénine soit fausse, mais pas elle. Mais un jour, je reçois un éclairage plus fort. Je reconnais que même elle aussi, c'était la magie. Donc, c'est ça, quoi. Donc, que Dieu bénisse les gens de ce site-là, mais malheureusement, ça a été fermé. Oui.
Moi, j'ai une question par rapport à ceux qui disent « Oui, mais il faut quand même prier pour eux, tout ça. » Bon, parce que c'est vrai que leur fin, c'est Dieu qui connaît leur fin. Parce qu'il y en a, très franchement, on n'est même pas conduit à prier pour eux. Hein. Bon, moi, je ne sais pas. C'est
non, moi, je pense qu'il y en a qui sont des anti-dieux. Ils sont en train de servir le diable pour détruire l'œuvre de Dieu. Donc, je pense qu'ils ont même péché contre le Saint-Esprit. Parce qu'ils attribuent, ils sont dans le péché d'Ésaïe 5:20. Ils appellent mal ce qui est bien, ils appellent bien ce qui est mal. Je pense que pour beaucoup d'entre eux, ils ont déjà choisi leur camp et que les prières ne serviront à rien. Sauf quand on connaît particulièrement certains, on connaît leur parcours, on sait qu'ils le font parce qu'ils ont été enseignés comme ça, ils ont subi des déviations, là d'accord. Mais pour moi, ça c'est mon avis, la majorité de ces gens-là, c'est des vrais serviteurs du diable qui ont un objectif, c'est combattre Dieu, c'est combattre le Christ.
Parce que c'est vrai aussi que parmi eux, bon, je pense quand même, il y en a. On leur a déjà dit, hein. On leur a déjà même les choses.
Et puis il y a des articles sur Internet sur eux aussi. Donc, moi, je sais par exemple que Bénin, il y a un pasteur américain qui a fait tout un film sur lui, en le dénonçant, en décrivant. C'est un film qui est répandu. Donc il est au courant, il a quand même un service de presse, ainsi de suite. Ils sont au courant. Non, ils sont dénoncés, ils sont au courant. Mais ils ont choisi leur camp, hein. c'est tout. Hein. Au fait, leur idée, c'est que comme ils arrivent à tromper les gens, ils se disent, mais les choses de Dieu, c'est faux. Puisqu'on arrive à faire croire aux gens, c'est que ce en quoi nous-mêmes, nous ne croyons pas. Donc forcément, c'est faux tout ça. Puisque nous, on ment et les gens nous croient. Donc ils se disent, mais c'est faux tout ça. On aurait pu dire autre chose, ils auraient cru quand même toujours. Donc c'est ça, ils se disent, oui, donc Satan a raison, tout ça c'est faux. Donc c'est cela quoi. Et moi je pense que beaucoup sont déjà, c'est fini pour eux, hein. Ils ont choisi leur camp. Maintenant, il y a des cas exceptionnels. Et Dieu nous les montrera et on priera pour eux. Ok, donc nous continuerons avec la série donc mardi prochain. Prions au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta puissance. Merci de nous aider à faire ce travail qui parfois peut être incompris, mais qui est salutaire pour beaucoup de personnes qui sont encore en train de te chercher à tâtons, Seigneur. Et d'autres pensent être dans ce qui est vrai, mais par ignorance. Et nous prions que ces enseignements les atteignent pour les sauver de la perdition. À toi la gloire, la louange pour tous tes bienfaits. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.